Zaïzaï Radio, une radio en direct aujourd'hui, 1er février 2024. Vous entendez pourtant depuis ce matin des journaux radiophoniques du futur qui promettent de bien belles choses. En tout cas, on s'équipe, on s'arme et on se renseigne pour faire en sorte que ça arrive. Et pour ça, on s'entoure de personnes qui ont des choses à raconter, à expliquer. Et c'est le cas pour cette émission qui commence maintenant jusqu'à 16h, puisqu'il nous paraissait incontournable d'aborder une journée d'appel d'urgence sans aborder l'écologie. Autour des micros, il y a toujours Chris qui a la technique et qui assure depuis ce matin ce direct très particulier. Merci beaucoup à lui, je le remercierai plus tard, mais avant de continuer, c'est important. Autour des micros, Jean-Claude Carrère, bonjour.
Bonjour.
Et Amandine Lafont.
Bonjour.
Je reviendrai sur vous deux. On aura le temps de parler de vos parcours, de vos engagements. Et avant tout, je voudrais vous présenter Francesco.
Bonjour.
Bonjour Francesco. Pourquoi est-ce que c'est toi qui vas commencer à prendre la parole? Parce que tu as un travail qui te demande de vite retourner derrière ton ordinateur. Francesco,
Désolé. Tu
fais partie d'une ONG engagée aussi. Et complètement en lien avec l'engagement citoyen, militant, notamment lié à l'écologie. Est-ce que tu peux nous présenter AVAS?
Oui, AVAS, c'est un mouvement de mobilisation citoyenne à niveau global. On travaille sur de nombreuses campagnes à niveau global qui essaient d'adresser les thèmes que nous affrontons aujourd'hui pour la survie de l'humanité et de la planète, tels les changements climatiques, la perte de biodiversité. Et on utilise les nouveaux médias, Internet, la possibilité de rassembler les citoyens autour des sujets et de n'importe quelle partie du monde pour mettre de la pression aux décideurs politiques. On parle toujours du lobbying comme de quelque chose de négatif. Et pourtant, il y a aussi un lobbying positif pour amener un changement positif dans la société. Et pour faire quelques exemples, en 2023, on a soutenu les procès légaux aux États-Unis et en Europe des groupes de jeunes qui ont porté plainte contre des gouvernements. Et du coup, on a soutenu leur action, on a financé leur action et on a donné la possibilité aux citoyens de participer à ces procès fondamentaux qui peuvent créer des précédents incroyablement puissants pour obliger les gouvernements à agir pour ralentir les changements climatiques et la perte de biodiversité. Ça, c'est deux exemples où les citoyens de n'importe quel pays du monde peuvent se retrouver en ligne et agir. C'est des actions individuelles qui, tous ensemble, ont un impact. Un autre exemple, c'est quand on a donné la possibilité aux leaders indigènes, des populations indigènes de l'Amazonie, de participer à la COP cette année. En amenant les représentants des peuples qui se battent en première ligne contre la destruction de l'Amazonie, là où les dirigeants des principaux gouvernements ils étaient en train de prendre des décisions clés pour l'avenir de la planète, on a donné la possibilité à ces leaders de participer, d'être là et d'avoir leur voix représentée, et on a donné aussi la possibilité aux citoyens avec leur action, faire partie de ces moments clés qui changeront notre futur, comme vous l'avez représenté ce matin
dans les programmes. Comment vous faites pour faire venir ces personnes d'Amazonie, par exemple? Comment vous avez fait?
On a, par exemple, dans ces cas-là, on a fait une levée de fonds visée à soutenir leurs frais de voyage et à aussi leur donner les supports logistiques, parce que souvent, tout ce qui est acheter des billets d'avion, organiser les transports, organiser les visas, les passeports, tout ça, c'est de la structure logistique. Les organisations qui se battent en première ligne n'ont pas forcément, parce qu'elles sont habituées à d'autres façons de lutte. Et du coup, on intègre nos possibilités, nos structures à leur façon d'agir. Et on travaille en partenariat avec eux, avec beaucoup d'autres organisations qui, partout dans le monde, en fait, ont les mêmes objectifs. et des façons de lutter différentes.
Donc vous avez une connaissance, un maillage comme ça, une connaissance globale de la planète. Vous savez à peu près à tel endroit, il y a telle structure qu'on peut solliciter pour telle chose, à tel moment, pour comment les relier les uns avec les autres pour agir, c'est ça?
En fait, c'est un écosystème, l'activisme. Et on est tous reliés les uns aux autres de plusieurs façons. Et avec Internet, c'est d'autant plus facile de trouver qui aider au moment clé. Et on est sollicité des structures de base, mais aussi on a beaucoup de partenariats, des partenaires avec d'autres dans tous les pays. Et nos chargés de campagne sont des antennes actives dans toute la planète qui parlent tout le temps avec des partenaires pour écouter là où il y a des décisions clés à prendre, là où il y a un vote au Parlement qui pourrait être. Par exemple, l'année dernière, on a agi avec beaucoup d'autres organisations à niveau européen pour soutenir une loi pour rendre illégal l'écocide. C'est un nouveau concept qui est devenu depuis quelque temps une loi dans l'Union européenne. Et ça est arrivé avec non seulement notre action, mais bien sûr l'action de beaucoup de citoyens, des gouvernements, des politiciens qui tous ensemble ont travaillé. Du coup, tout ça, c'est pour dire qu'en tant que citoyen et citoyenne individuelle, on a peut-être peu de possibilités d'action, mais en fait, non. En fait, on se sent isolé, mais il y a partout dans le monde, tout le temps, des actions auxquelles on peut participer et des communautés desquelles on peut faire partie.
Alors comment on fait? On va sur un site internet en particulier, oui, nous, on signe des pétitions. Comment on fait? Moi qui veux vous aider, par exemple, je fais comment?
Notre site internet, c'est avaz.org. A-V-A-Z.org. Voilà. Et là, vous retrouvez nos dernières campagnes, la possibilité de signer, de devenir membre, de recevoir nos mails. Et à partir de là, vous commencez à recevoir nos appels. Et là, une fois que vous êtes dans la mailing list, après vous retrouverez aussi nos partenaires. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et où on partage aussi plein de belles histoires, parce qu'en fait on essaie d'aller un peu contre cette narration que tout va mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont un peu pourries et qui nous et surtout les systèmes des médias pousse beaucoup d'histoires négatives parce que ça marche mieux. Mais il faut aussi faire l'effort d'aller chercher les belles choses qui se passent et se passent parce qu'il y a des gens qui agissent dans le monde. Et avoir la possibilité de voir ça nous sort un peu de nos boules négativisantes tout le temps.
Merci infiniment, Francesco.
Merci à vous.
On te laisse retourner à la lutte, du coup. Et on est en plateau avec Jean-Claude Carrère et Amandine Lafont. Alors je vais faire un petit tour, vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. Amandine, consultante et chef de projet dans la formation digitale, créatrice de la société Savoir Précieux il y a quelques années, une société qui accompagne les acteurs et les actrices de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS. Et vous êtes aussi formatrice et référente locale pour la fresque du climat.
C'est ça, merci.
C'est ça. Jean-Claude Carrère, vous êtes professeur de physique chimie en retraite. C'est ça. Vous êtes militant engagé dans plusieurs associations, auprès de mineurs isolés notamment, dans la mise en place il y a quelques années, puisque vous êtes cofondateur de la Maison des Peuples et de la Paix, la MPP, bien connue ici en Charente. Vous êtes aussi engagé pour le soutien au peuple palestinien et vous êtes donc pour le respect du vivant, ce qui nous amène évidemment à vous rassembler tous les deux dans cet engagement écologique, puisque vous avez aussi été en politique dans l'écologie. J'aimerais savoir, l'un et l'autre, qu'est-ce qui fait qu'on enracine un engagement écologique dans une vie? Qu'est-ce qui a déclenché pour vous cet intérêt pour l'écologie et la défense du vivant? Amandine.
Alors moi, j'ai eu une prise de conscience, on va dire, au niveau au moment où je suis tombée enceinte de ma première fille, donc il y a 9 ans. Je sais que c'est un élément déclencheur assez puissant chez pas mal de personnes. Et en fait, moi j'avais grosso modo l'impression d'être ultra écolo parce que je triais super bien mes déchets et je me déplaçais qu'à vélo, j'y vais à Paris à l'époque. Et puis quand je suis tombée enceinte, en fait, je commençais à questionner un petit peu mon alimentation, qu'est-ce que je donnais à manger à mon bébé, et puis comme ça j'ai commencé à tirer le fil. Et puis quand on commence à s'intéresser au sujet, et puis l'avantage d'être en congé maternité, c'est qu'on a le temps, donc on a le temps de lire, on a le temps de se documenter. Et ben on se rend compte que ben on ouvre des portes et puis il y a d'autres choses qui vont nous alerter. Je suis assez vite tombée sur les sujets du changement climatique, des pertes de biodiversité. Et le fait de relier ça au fait de devenir maman, ça a été assez puissant pour moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un moteur quasiment inarrêtable pour moi, puisque c'est très ancré dans ma chair, dans la chair de ma chair. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, mais ça n'a pas été, c'est pas quelque chose d'inné, c'est venu de manière très puissante à ce moment-là.
Et quel regard, du coup, vous avez porté sur les années que vous aviez vécues sans cet engagement, sans ce réveil ?
Alors moi, je vais déculpabiliser pas mal de monde, qui peut nous écouter, mais en tout cas, si on reparle du changement climatique et notamment des questions d'empreinte carbone, etc., j'ai pas été exemplaire, loin de là, pendant des années. À l'époque, moi je venais d'un milieu assez modeste, mes parents avaient vraiment envie que je réussisse, donc j'ai pendant très longtemps été... motivée par le fait de bien gagner ma vie, d'être en sécurité financière, etc. Et donc j'avais laissé ces sujets-là finalement de côté. Aujourd'hui, il y a eu un moment où j'ai eu un peu une once de culpabilité quand je me suis rendu compte du système auquel je contribuais. Mais à la fois, ça me donne aussi aujourd'hui... une forme d'indulgence pour les gens qui n'en sont pas là, et je sais d'où je viens, et donc ça m'aide, je pense, des fois à trouver les mots pour embarquer des gens qui n'en sont pas à mon niveau de conscience aujourd'hui.
Et des formes d'étapes aussi à passer,
voilà, c'est
des
un
choses à apprendre.
C'est rarement du jour au lendemain, c'est des choses qu'on intègre, et des fois il y a des personnes qui vont changer du tout au tout, ils vont regarder une vidéo, et puis dès le lendemain ils vont devenir végétariens, arrêter de prendre l'avion, etc. Moi ça n'a pas été mon cas, et je pense que c'est pas pour rien qu'on parle de transition écologique. Je pense que c'est aussi parce que c'est un cheminement intérieur, et je pense qu'il faut se regarder avec indulgence et puis surtout être fier du chemin parcouru et de montrer que finalement, si nous on y est arrivé, alors que moi je vous garantis que je partais quand même d'assez loin, c'est finalement à la portée de tout le monde. Enfin, c'est vraiment une vision déculpabilisante, même si aujourd'hui, je reste intransigeante sur certains sujets, sur le fait qu'il faut qu'on avance et qu'on se mobilise pour... ce que disait Francesco, préserver les conditions d'habitabilité pour tout le monde sur la planète, parce que c'est vraiment ça dont il est question aujourd'hui autour des enjeux d'écologie. J'essaye de le faire de manière enthousiasmante, non culpabilisante, pour essayer d'embarquer un maximum de personnes dans ce challenge.
ce défi, ouais, effectivement. Jean-Claude Carrère, comment vous avez mobilisé, comment vous êtes devenu écolo ?
Alors, je vais choisir trois périodes de ma vie qui ont été des chocs. Comme ma voisine, je viens d'un milieu très modeste, j'étais dans une petite ferme, on était une famille très nombreuse, et l'été, on était des ouvriers agricoles. Et moi aussi, j'ai eu la chance de réussir à l'école, et donc je suis allé à l'école normale, j'étais d'abord, je pensais être instituteur, c'était mon ambition, et puis finalement j'ai été professeur, et j'ai fait mes études à Bordeaux au moment de la guerre d'Algérie. Ça a été mon premier choc. C'est-à-dire que j'étais dans une famille qui n'était pas du tout politisée, qui n'était pas du tout sensible, sinon écolo, parce qu'on était on vivait à la campagne. Et la guerre d'Algérie fait qu'en 60, je suis parti en Algérie avec un mouvement étudiant. On est allé faire des colonies de vacances pour des petits Algériens. Et c'est la première fois que je quittais mon pays. J'étais même jamais allé à Paris. Donc là, ça a été un premier choc qui fait qu'en revenant, en étant étudiant, j'ai été délégué de corpo, j'étais à l'UNEF et on s'est battu. Contre la guerre d'Algérie. On avait créé des comités antifascistes, on allait chez des profs pour les protéger la nuit. Voilà. Donc ça a été très important. Puis ensuite, mon premier poste, j'ai été nommé en prof de lycée. J'étais à Blois, donc j'ai débarqué dans une région que je ne connaissais pas du tout. Je me suis retrouvé en ville. Et le deuxième événement important, c'est que lorsque nous avons eu notre premier enfant, avec ma femme, nous étions dans une cité HLM à Blois, qu'on appelait la ZUP. Et je me suis beaucoup impliqué, on a créé une union de quartier, on s'est battu contre l'urbanisme qu'on nous proposait, on a fait des tas d'actions pour empêcher. On ne voulait pas de logement, de cité en tout béton. Et donc ça a été très important. Et en même temps, en étant prof de physique-chimie, j'ai eu l'occasion, j'ai été prof en collège, j'ai été prof en lycée général, j'ai été prof en lycée technique, et j'avais enseigné le nucléaire à mes élèves de terminale. Et j'étais profondément anti-nucléaire, je le suis toujours, donc j'ai fait évoluer mon travail, j'ai amené mes élèves soit à la Cité des Sciences, on est allé visiter des centrales nucléaires à Saint-Laurent-des-Eaux, on était ici à Brault-Saint-Louis, je voulais leur faire découvrir ce qu'était la réalité. Le nucléaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, même à enseigner, mais je leur ai dit, faites attention, je ne suis pas là pour vous bourrer le mou, mais pour vous faire partager ça. Et par exemple, on est allé visiter une centrale à Brault-Saint-Louis, le matin, on est allé voir un paysan qui était en nucléaire, l'après-midi EDF qui nous servait le discours habituel, et je leur dis maintenant faites votre synthèse. Voilà, donc je suis resté à Blois pendant 12 ans, et ensuite on est revenu en Charente puisque ma femme était originaire de la Charente. Et on a fait un choix nous avions été marqués pendant 12 ans par cette vie en cité qui nous avait à la fois rapprochés de gens qui étaient, on était des bourgeois dans le quartier, mais ça nous avait rapprochés des gens qui étaient autour de nous. Et quand on est venu ici, après un an, on a été dans un petit bâtiment en face de la gare, et nous avons choisi d'acheter une maison dans le quartier de Bel Air à Grandfonds. Ça fait 42 ans que nous sommes là-bas, et nous y sommes toujours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon engagement essentiel, je suis dans le conseil citoyen du quartier de Bel Air, La Grand-Fond. Voilà. Et voilà, je crois que. Bon, après, effectivement, vous avez parlé de la Maison des Peuples et de la Paix. Il se trouve que quand je suis arrivé à Angoulême en 1978, j'étais à l'époque au PSU. Je me suis présenté aux élections municipales dans l'équipe de Michel Boucheron, qui a des bons souvenirs, mais de très mauvais souvenirs aussi. Et c'est à ce moment-là, moi, ma seule motivation politique, c'était deux choses. C'était de créer une association. C'est venu comme ça, parce que j'avais à gérer tout ce que les autres ne voulaient pas gérer. Je m'occupais des migrants, je m'occupais des gitans, et je me suis occupé de la création du jumelage entre Angoulême et Ségou. Voilà. Et ça a été quelque chose. C'était trois choses concrètes. Je n'avais pas envie de faire de la politique uniquement pour des grandes idées, mais pour créer des choses concrètes.
Et votre engagement écologique ?
Alors, mon engagement écologique, il a été. Bon, j'ai été. Le PSU, déjà, était un des premiers partis qui se battait pour l'écologie, contre le nucléaire, mais aussi pour la nature, pour le vivant. Et j'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts, je pense, dans les années 90. Sans m'enfermer dans une posture de parti, puisqu'en 95, on a créé un mouvement citoyen qui s'appelait Angoulémoise. J'ai été tête de liste. On avait fait d'ailleurs un bon score. Et tout en étant conseiller municipal, déjà, on avait fait le projet de rendre l'île Marquet en faire une île écologique. Bon, on avait acheté un bateau qui permettait aux élèves d'aller sur l'île. Bon, puis ensuite, c'est un projet qui a été abandonné par Chavannes quand il a pris le pouvoir. Et après, quand j'ai été en retraite en l'année 2000, J'arrêtais mon travail et toute la compétence que j'avais accumulée en tant que prof, j'avais envie de la réinvestir. Et à ce moment-là, je suis allé à Charente Nature et à l'époque, on se battait contre l'usine d'incinération de la Couronne, qui aujourd'hui n'existe plus. Et pareil, là, on n'était pas que dans le lutter contre, on avait envie de faire des choses positives et on a créé un groupe, le groupe Prévention Déchets, à Charente Nature, donc, dont je suis toujours membre et co-animateur. Et dans ce groupe de prévention déchets, on a fait beaucoup d'ateliers d'animation très concrets sur les produits non toxiques pour le ménage, les produits cosmétiques, etc. Et on a pendant 5 ans, on a fait la fête de la récup, qui était un rassemblement très important avec une quarantaine de partenaires pour les montrer aux gens les choses concrètes qu'ils pouvaient faire.
Alors, on parlait tout à l'heure de la fresque du climat, Amandine. C'est une expression qu'on entend de plus en plus. On ne connaît pas forcément exactement ce que c'est. Alors, voilà, vous êtes là, profitons-en. Expliquez-nous ce qu'est la fresque du climat.
Le buzzword, effectivement. Alors, la fresque du climat, c'est à la fois un atelier et une association qui porte le déploiement de cet atelier. Un atelier de la fresque du climat, c'est une sensibilisation autour des enjeux du dérèglement climatique. Le but, c'est de comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique tels qu'ils sont présentés dans les rapports du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et c'est des scientifiques sous l'égide de l'ONU qui vont collecter toute la littérature, toutes les études qui sont faites sur l'évolution du climat et les synthétiser dans un rapport à destination des décideurs et au final du grand public aussi, puisque tout un chacun peut se...
Et on s'en réfère régulièrement.
S'en référer. Sauf que si vous lisez ces rapports, c'est quand même assez technique. Même le résumé aux décideurs d'une cinquantaine de pages, c'est pas forcément évident de tout comprendre. Et donc, en fait, cet atelier, il a été créé par l'actuel président de l'association, qui s'appelle Cédric Riegenbach, en 2015. À l'époque, il allait avoir la COP21. Il cherchait un moyen, finalement, de pouvoir sensibiliser. Alors ça a démarré avec ses étudiants, puisqu'il était prof en énergie climat en école. Puis il s'était rendu compte que quand il faisait des cours sur le changement climatique, c'était pas toujours très enthousiasmant pour les étudiants. C'était cours magistral,
un peu abstrait,
mmh. Voilà. Et donc il a décidé un jour de découper des graphiques des rapports du GIEC et de les faire replacer ces graphiques selon une logique de cause-conséquence. Puis là, il s'est rendu compte qu'il avait un outil assez intéressant. Et puis un jour, l'école lui a dit « Ok, super, tu fais ça avec une classe, on va te demander de faire ça pour l'intégralité de l'école à la rentrée. » Et là, il s'est dit « Je ne peux pas animer ça tout seul pour des dizaines et des dizaines d'étudiants, donc je vais former des animateurs, je vais leur mettre le jeu de cartes entre les mains, et puis ils vont venir en soutien. » Et là, ça a été un test assez formidable de finalement le fait qu'il avait réussi à créer un outil qui pouvait vraiment servir à sensibiliser le grand public. Et donc voilà, les premiers ateliers ont eu lieu à un moment au moment de la COP21. Et puis ça a bien fonctionné. Et donc l'association s'est créée quelques années après, en 2018, dans l'idée vraiment de structurer et d'accompagner la diffusion de cet outil à l'intégralité de la population française et même mondiale, puisque aujourd'hui on est une association qui essaime aussi à l'international. Et donc cet atelier, il dure 3 heures. Et la première moitié, ça va vraiment être jouer avec ce jeu de cartes là dont je vous parlais. On va retracer les causes et les conséquences autour du dérèglement climatique.
Donc on peut être combien pour essayer d'imaginer un atelier? On rassemble quoi, une dizaine de personnes?
Oui, alors un animateur, il peut gérer 2 tables de jusqu'à 7 personnes sur chaque table, donc une quinzaine de personnes maximum. Et donc ils vont réfléchir vraiment. L'idée, c'est d'aller à l'encontre de ce que je décrivais au tout début, le cours magistral. Vous voyez, c'est vraiment le parti pris opposé, c'est-à-dire de se baser sur l'intelligence collective. Finalement, le changement climatique, c'est que tout le monde en a entendu parler, a des connaissances, et l'idée, c'est de les mettre ensemble, puis de se servir aussi de ce qu'il y a sur les cartes pour réussir à finalement retracer ce qui fait ce qu'on appelle le consensus scientifique aujourd'hui autour de ce sujet. Et donc, la moitié de l'atelier, c'est vraiment ça. Mais ensuite, si on veut, nous, on part du principe au sein de l'association que si on veut lutter contre un problème, il faut déjà bien le comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a cette première moitié de l'atelier qui est sur le constat, qu'est-ce qui se passe quand on parle du dérèglement climatique, qu'est-ce qu'il cause et qu'est-ce que ça entraîne dans nos vies. Mais après, si on s'arrête là, finalement, on va laisser les gens sur un sentiment de mal-être. C'est pas avec ça qu'on va avoir envie d'agir. Donc la deuxième partie de l'atelier va consister à créer un échange en fait autour des émotions, parce que si je vous explique le changement climatique mais que vous me dites ouais super en fait je m'en fiche, vous n'allez pas avoir envie d'agir. Donc il faut que ça génère des émotions chez vous. Donc on va créer cet espace d'échange pour partager son ressenti par rapport à ce constat. Alors souvent c'est des ressentis plutôt inconfortables. Mais finalement, ça, c'est peut-être aussi un des grands problèmes dans notre société, c'est que ce sujet génère un malaise, mais finalement, on n'a pas de plateforme pour en parler. Donc nous, c'est ce qu'on crée. Et puis, la dernière partie de l'atelier, qui est finalement la raison pour laquelle on fait ces ateliers, c'est de réfléchir autour des pistes de solutions. Parce que si je vous dis, y a un problème, vous comprenez, ça vous touche, vous dites, j'ai peur, je suis en colère, j'ai envie de faire quelque chose. Je vous dis, par contre, malheureusement, il n'y a rien à faire. Vous allez rentrer chez vous et profiter, vous couler un bon bain chaud, manger une côte de bœuf et réserver vos prochaines vacances aux Maldives avant qu'elles disparaissent. L'idée, c'est de montrer qu'on a un pouvoir d'agir. Donc, on a un pouvoir d'agir à titre individuel. C'est souvent ce à quoi on pense en premier. On va se dire, je vais essayer de réduire mes déchets, je vais peut-être revoir mon alimentation, ma façon de me déplacer, etc. Et c'est très bien. Mais il y a tout ce dont Francesco parlait aussi, ce qui est l'action collective. Et comment moi je ne m'épuise pas finalement à essayer de porter toute la misère du monde sur mes épaules, mais comment je m'intègre dans des collectifs pour agir sur ces questions-là. Et donc là, ça peut être à la fois d'un point de vue associatif, comme on a pas mal parlé jusqu'à présent.
Comme racontait M. Carrère, effectivement, vous rejoignez là-dessus.
Tout à fait. Mais ça peut être aussi comment j'occupe pleinement mon rôle de citoyen, et donc la dimension politique, comment je reprends mon rôle de citoyen. Et puis aussi, comment je peux agir, par exemple, sur les entreprises. Je suis aussi un consommateur, une consommatrice, donc comment je peux mettre la pression aux entreprises. Alors ça peut être soit par des pétitions, des boycotts, mais c'est aussi tout simplement dans quoi je mets mon argent. Ça peut être aussi comment je transforme l'entreprise dans laquelle je travaille. Et moi, j'interviens aussi avec ces ateliers dans beaucoup d'entreprises, et je vois de plus en plus, on a de plus en plus de salariés qui se servent de cet outil de la fresque du climat pour essayer de changer les choses en interne.
En interne, oui.
Donc vraiment, l'idée, c'est de redonner finalement aux gens leur pouvoir d'agir. C'est vraiment la thématique de la journée d'aujourd'hui. Mais nous, vraiment, la pédagogie de l'atelier, elle est construite comme ça. Parce qu'on ne fait pas tant l'atelier, et l'association n'existe pas tant pour que les gens sachent parfaitement expliquer les causes et les conséquences du dérèglement climatique. C'est bien de les comprendre, mais c'est surtout...
Qu'est-ce qu'on en fait, et comment
on se met en marche pour relever ce défi qui est un des défis du siècle. Malheureusement, d'un point de vue écologique, quand on parle du climat, ce n'est qu'une petite partie du problème. Il y a plein d'autres enjeux. On a parlé des pertes de biodiversité, les enjeux autour de l'eau, etc. Mais c'est une bonne porte d'entrée quand même pour commencer à s'intéresser aux enjeux de l'écologie. Et en parler à plusieurs. Je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vrai débat de société autour de ces enjeux-là. Et nous, c'est ce qu'on essaye de créer, alors modestement à notre échelle, sur des petits groupes. Mais généralement, en tout cas, les gens nous disent toujours que c'est quand même une expérience qui est assez forte de vivre ça en collectif.
Vous y avez joué ? À ce jeu ? Est-ce qu'on dit jouer ? On dit participer ? On dit jouer à la fresque du climat ?
On peut dire participer,
Oui, pendant quelques années, j'ai animé le groupe Transition énergétique à Charente Nature. Et un jour, je pense que c'était Francis Filbert, qui aujourd'hui est président de Fabrique à Watt, dont je suis sociétaire, c'est la première société citoyenne d'énergie renouvelable en Charente, avait animé un atelier sur la fresque du climat. Mais ça fait déjà, vous avez parlé, ça est né en 2018.
L'association, elle s'est créée en 2018, ouais, on a fêté nos
ça devait être un petit peu cette période-là, au 2017, je sais pas.
Amandine, vous nous avez emmené une musique.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi cette musique en particulier? En plus, elle a vraiment un lien avec l'émission, pour le coup.
Alors, la musique, elle s'appelle The World to Come, de Frédéric Castal, et ça fait partie de la BO Demain. Alors, c'est un ami dont je suis assez proche, qui vit dans les Deux-Sèvres, et on a décidé de créer un collectif de personnes engagées sur le territoire Poitou-Charentes, on va dire. Et notamment toute cette communauté autour des fresques, du climat. Il avait décidé de faire une playlist, de dédicacer des chansons aux différentes personnes du collectif. Et il a choisi cette chanson-là pour moi. Et je la connaissais, puisque effectivement, j'avais vu le film Demain. C'est vraiment l'idée de construire le monde qui est à venir, quoi. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je crois qu'il y a pas mal de monde, plus d'1,5 million, je crois, de personnes qui ont vu le film Demain, si je ne me trompe pas. Et c'est clairement, ça a été un déclencheur de mise en mouvement de pas mal de personnes que moi j'ai pu rencontrer par la suite au niveau de la fresque. Et ce qui est chouette avec ce film, c'est que ça montre en fait que ce monde, cette société qu'on essaye de faire émerger, finalement, elle est déjà là. Et il y a plein d'acteurs et d'actrices du changement qui se saisissent des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, sociaux, et en fait qui ne demandent qu'à être soutenus pour créer ce monde de demain. Et donc voilà,
ça se dit en musique.
Voilà.
Alors, pause musicale.
The sea, salt, and sun. come, there's no world to come.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Alors, cet extrait du discours de Greta Thunberg, on le connaît, on l'a entendu, réentendu, et toujours aussi émouvant. C'était en 2019, lors du sommet sur le climat devant une soixantaine de dirigeants mondiaux. Donc quand même, ça a impacté du monde. Vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Amandine et Jean-Claude ?
Comme vous voulez. Moi, je trouve ça extrêmement émouvant. En fait, comme je vous disais au début, moi, ma prise de conscience, elle a démarré par le fait de devenir maman. Et donc, de voir cette jeune génération se saisir de ces sujets, moi, ça m'émeut toujours. Quand je l'entends, je projette toujours le fait de voir mes filles adolescentes, enfin voilà, et de me dire... quelle planète on va leur laisser. Et moi, je sais que c'est un gros moteur pour moi, cette jeune génération qu'on a mis sur Terre, qui subissent des conséquences d'une situation qu'ils n'ont pas créée. Moi, c'est un gros, gros moteur pour mon engagement encore aujourd'hui.
Il y a deux choses qui m'ont... Une un peu négative, c'est que j'aurais bien aimé avoir des élèves de terminale qui soient comme Greta Thunberg. Parce que quelquefois, je me disais, je leur donne des éléments pour gagner leur vie, pour être... peut-être qu'ils vont devenir des dirigeants, des gens qui vont exploiter les autres. Voilà. Et aujourd'hui...
Ça, c'est la crainte des professeurs.
Oui, l'inverse de ce que je disais. Quels enfants on va laisser à la planète aussi.
Voilà. Ah oui, aussi.
Mais aujourd'hui, j'ai 7 petits-enfants, j'ai un arrière-petit-fils. Et il se trouve que parmi mes petites filles, presque toutes sont des artistes, soit font du design, font... Du didactique visuel. Il y en a une qui est danseuse et toutes mettent au cœur de leur travail l'écologie. C'est-à-dire que par exemple, une petite fille qui va faire de l'illustration, elle va regarder quelle encre elle utilise, quel pinceau elle utilise, à qui ça va servir. Il n'est pas question d'aller faire de la communication pour des entreprises qui sont tout sauf écolo. Et donc ça, elles ont mis l'écologie non pas, elles ont mis l'écologie au cœur de leur vie et de leur métier. Et
oui, c'est même plus négociable, quoi.
Non. Mm. Non. Et ça, elles sont 10 fois plus écolo que moi.
Mais peut-être que vous leur avez apporté cet engagement-là, peut-être cette vision-là, ou en tout cas cette posture.
Ça, je ne sais pas si c'est moi qui leur ai apporté, parce que moi, j'étais prof de sciences, elles sont devenues artistes. Donc, voilà. Mais je suis plutôt fier qu'elles aient pris cette voie. Ça, je ne sais pas. Je ne leur ai jamais directement posé la question, savoir. Je pense peut-être que j'ai pris une petite part, mais je ne pense pas être le grand responsable de cette évolution. Je pense qu'elles-mêmes, elles vivent dans une société qui les font réfléchir, qui les font évoluer. Et voilà.
Quelles sont vos ressources à l'un et l'autre pour vous tenir au courant, pour alimenter votre engagement écologique ?
Il y en a beaucoup, mais bon, aujourd'hui, j'ai chez moi une bibliothèque énorme, mais je lis beaucoup moins parce que j'ai vieilli. Et j'utilise beaucoup, je vais beaucoup sur Internet, je soutiens énormément d'associations. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'Avaz. Donc, on peut intervenir effectivement au niveau d'un Internet, on peut aussi avoir beaucoup d'informations, mais moi je suis, par exemple, moi je ne suis pas du tout réseaux sociaux. J'ai un Facebook, mais il faudrait que j'ai une formation parce que je n'y comprends pas grand chose. Par contre, je lis tous les jours Le Monde, tous les jours, je vais à des réunions de Charente Nature. Moi, j'ai besoin de, quand j'ai une information, j'ai besoin de temps pour la digérer, pour savoir comment en faire. Mais les échanges au niveau des réseaux sociaux, c'est tic-toc, toc, tic-toc, tic-toc. Et ça, pour moi, c'est très difficile. Par exemple, en ce moment, il y a des manifestations sur la Palestine, on a un WhatsApp, c'est 50 notifications par jour, quoi. Bon, moi, j'y participe pas parce que c'est pas ma façon de travailler. Voilà.
Et vous, Amandine ?
Moi, pendant longtemps, comme je vous ai dit, ça n'a pas été inné chez moi, cette conscience écologique. Donc pendant longtemps, j'ai eu besoin de me nourrir de lectures, beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos aussi autour des enjeux. Là, depuis quelques temps, je suis vigilante à ce qu'on appelait un peu mon écologie intérieure, mais trouver une forme d'équilibre entre des auteurs qui vont continuer à me nourrir sur les enjeux, parce que j'en découvre malheureusement presque tous les jours quand on gratte un sujet. Il y a toujours des choses dont on a l'intuition, mais finalement, on n'a pas exactement mis les mots ou les chiffres, etc. Donc, j'essaie de trouver une forme d'équilibre entre ces choses-là et puis des choses qui vont être plus nourrir mon imaginaire, essayer d'aller vers des utopies. Là, récemment, j'ai lu pas mal Alain Damasio, Sandrine Rudeau, pour m'oxygéner un petit peu et trouver une forme d'équilibre, parce que je pense qu'on peut assez vite aussi tomber, des fois, dans le burn-out militant, s'épuiser un petit peu à la tâche, puis avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on encaisse, et puis aussi, parfois... dans les familles ou dans l'entourage amical, c'est pas toujours comme dans la famille de Jean-Claude Carrère où il y a une certaine continuité. Des fois, avec les proches, c'est pas toujours facile. Et puis, il peut y avoir des formes d'incompréhension. Et donc, c'est important déjà de se nourrir, de se nourrir de choses qui ne sont pas que sur les constats très négatifs, qui vont entretenir l'amour du vivant, la beauté de tout ce qui est beau et qui fait qu'on a envie de préserver cette vie sur Terre. Le fait d'être en collectif, à la fois pour être plus efficace dans nos luttes, mais aussi pour se régénérer avec des personnes qui sont animées par les mêmes valeurs, et trouver des moyens de parfois évacuer un petit peu toutes ces émotions inconfortables qui peuvent nous animer, ou ces tensions qu'on peut avoir aussi avec certaines personnes de notre entourage. Et d'ailleurs, là, actuellement, je porte un projet de podcast qui va traiter de ce sujet, l'impact de l'urgence environnementale dans nos relations aux autres, à nos proches, parce que je me rends compte que ça peut être un vrai sujet de souffrance pour pas mal de personnes engagées. Avoir un moyen d'échanger autour de ça, je pense que ça aide aussi à continuer à aller de l'avant. Mais vraiment, aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est effectivement se reconnecter au pourquoi, finalement, on fait tout ça. Et moi, c'est mes filles, mon gros moteur, et donc essayer de passer aussi un maximum de temps avec elles, d'être dans l'instant présent et pas toujours d'être dans la projection de tous les scénarios que je vois du GIEC, etc. Et aussi essayer de profiter au maximum de tout ce qui est beau au quotidien, pour après repartir toujours plus motivé, avec de l'énergie dans mes actions de sensibilisation, de lutte, etc.
Aujourd'hui, ça fait 70 ans que l'abbé Pierre a lancé son appel à la radio contre la misère. S'il y avait un appel d'urgence que vous pouviez lancer là, à la radio, sur Zaïzaï, quel serait cet appel d'urgence ?
J'en prends deux. Moi, je vis dans le quartier de Bel Air à Grandfonds, qui est un quartier fait de passoires thermiques. Et l'été, les gens qui vivent dans ce quartier, c'est un quartier avec beaucoup de pauvreté. Les gens vivent dans des passoires thermiques, ils ont très chaud, etc. Que les politiques prennent vraiment en compte la pauvreté, fournissent du travail. On est dans des quartiers avec un taux de chômage incroyable, et que la, Le mal logement, c'est des gens évidemment qui sont à la rue, il y en a toujours plus, mais c'est aussi des gens qui ont un logement et qui sont mal dans leur logement. Donc, qu'on nous... simplement, j'ai entendu hier le Premier ministre qui dit eh ben, on va prendre maintenant, pour la loi SRU, on va mettre dans les logements sociaux, on va mettre des logements intermédiaires. Moi, je suis un petit bourgeois dans mon quartier, mais au moins quand même, les petits bourgeois comme nous, on se met au service des gens les plus pauvres. Et le deuxième appel, c'est très différent, je reviens au groupe prévention déchets. Quand je vais dans un supermarché, quand je vois les tas de plastique qu'il y a, on commence à travailler sur le zéro plastique. Je pense qu'à la fin de l'année, à Champ de Nature, je pense qu'on fera venir une chercheuse là-dessus. Mais c'est tellement dramatique. Et aujourd'hui, et en plus, plus on est pauvre, plus on nous pousse à utiliser du plastique. C'est ça qui est terrible, quoi. Et donc, l'appel, c'est zéro plastique, mais il ne suffit pas de le clamer, ce n'est pas évident. Il faut engager ça, voilà.
Amandine ?
Bien entendu, je ne peux que abonder dans ce sens-là. Et il y a tellement de
renforcer l'appel
de choses, moi, qui me révoltent. Je dois passer plusieurs pétitions par jour. Et je les signe toutes et j'ai l'impression que c'est sans fin. Mais si je devais là choisir deux qui m'ont interpellée, je fais deux aussi, comme mon camarade aujourd'hui. La première, c'est une pétition qui tourne au niveau européen pour taxer les plus riches. Aujourd'hui, et ça va faire écho ben, voilà, avec l'appel de l'abbé de Pierre et ce que Jean-Claude vient de dire, mais il faut se rendre compte qu'il y a une vraie injustice d'un point de vue climatique. Les plus pauvres, ils sont frappés par une triple injustice. Ils ne sont très peu à l'origine du dérèglement climatique actuel. Il faut avoir conscience qu'il y a une étude d'Oxfam qui est sortie il y a quelques mois, où sur la période 90-2015, on a analysé les répartitions des émissions. Et on se rend compte que la moitié des plus pauvres ne sont responsables que de 7% des émissions de CO2 dues à notre niveau de vie. Voilà. Et on se rend compte que les 10% les plus riches, ils sont à l'origine de 50% des émissions. Et si on prend les 1% les plus riches, c'est 15% des émissions. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une injustice dans l'origine du problème. Après, dans les conséquences, en revanche, c'est toujours les plus pauvres, les plus démunis, les plus vulnérables qui vont subir de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. Alors on pense forcément aux pays du Sud, mais c'est très vrai aussi à l'échelle de notre pays. Si vous vivez dans une passoire thermique, on vient d'en parler, vous avez moins les moyens de rénover, et donc vous allez plus souffrir du froid en hiver, vous allez plus souffrir des canicules en été, voilà. Et puis, la dernière injustice, c'est que les pauvres, forcément, ont moins les moyens de s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique. On sait qu'il va y avoir de plus en plus de vagues de chaleur qui vont potentiellement être plus intenses, durer plus longtemps et se répéter de plus en plus fréquemment sur une période de temps limitée. Et les plus pauvres ont aussi moins les moyens de s'adapter. Donc il faut aller prendre l'argent là où il est. Aujourd'hui, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la transition écologique, c'est faux. Il faut aller le chercher là où il est. Donc cette pétition-là de taxer les plus riches, elle est importante. Et il y a même certains riches, on l'a vu aux conférences de Davos, qui appellent à ça. Donc voilà.
Et où est-ce qu'on la trouve, cette pétition ?
Alors, malheureusement, je ne l'ai plus en tête. Ça s'appelle Tax the Rich. Et je crois qu'elle est sur le site du Parlement européen, en fait. Mais je ne pourrais pas vous donner le site internet exact.
On cherche un peu et on trouve.
Voilà, on cherche un peu et on trouve assez facilement. Et la deuxième pétition que j'ai envie de... La deuxième cause que j'essaye de soutenir, c'est la mobilisation qui est actuellement quelque chose de plus proche en Nouvelle-Aquitaine, où il y a un projet de 8 nouveaux forages pétroliers sur le bassin d'Arcachon. Et donc, il y a des collectifs qui se sont mobilisés, que j'ai pu rencontrer le week-end dernier, parce qu'ils étaient là à l'occasion du festival de la BD. Et il y a un appel à manifestation à Bordeaux, dimanche 11, donc là, le week-end, pas le week-end qui arrive, le suivant. Et ça, moi, ça me semble être une cause importante à soutenir, puisque les scientifiques, le GIEC et tous les scientifiques, et même... des instances comme l'Agence internationale de l'énergie, hein, qui n'est pas un lobbyiste, lobbyiste du climat, mais disent qu'en fait, aujourd'hui, il ne faut plus faire de nouveaux forages. Il ne faut plus extraire d'énergie fossile si on veut espérer limiter les conséquences du dérèglement climatique. Et donc, du coup, des projets comme ça, ils sont complètement anachroniques et ne devraient plus exister. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui se passe à quelques dizaines de kilomètres de chez nous. Donc ça me semble important, voilà, pour les gens qui nous écoutent là en Charente, de se mobiliser aussi sur ça.
Je peux en ajouter un ?
Ah bien sûr, c'est parti.
Mais dans la surenchère.
Non, mais là, c'est un peu particulier. Mais
il y a beaucoup d'urgence.
Cessez le feu en Palestine. Ça, c'est... Donc il y a une manifestation demain après-midi à 15h à Angoulême.
Le rendez-vous est donné. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission à cette journée.
Merci.
Bon courage dans vos luttes.